France Inter.
Bonjour à tous et bienvenue dans Grand Bien vous fasse. Et si on apprenait enfin à aimer le sport ? Ça ne vous est jamais arrivé de regarder quelqu'un courir et vous dire que vous aimeriez aimer ça, vous aussi. Trop souvent, pour rester immobile, nous nous abritons derrière des phrases toutes faites. « C'est pas pour moi, j'ai jamais été sportive, à mon âge c'est trop tard ». Mais ces murmures de résignation ne sont que des illusions, car le déclic pour aimer le sport est possible à tout âge. La preuve, en 2019, Julia Hawkins, une Américaine de 103 ans, franchissait la ligne d'arrivée d'une course de 100 mètres, inscrivant son nom au livre des records à peine 3 ans après avoir commencé l'athlétisme à 100 ans. Alors pourquoi elle et pas nous ? Parce qu'il n'y a pas de place dans nos emplois du temps surchargés ? C'est effectivement la sensation qu'on a souvent de courir après le temps, à défaut de courir tout court. Mais regardons la réalité en face. Nous restons assis pendant des heures derrière un bureau, rejoignons chaque destination sans effectuer le moindre pas, et même nos courses arrivent chez nous sans avoir à nous déplacer. Peu à peu, la sédentarité s'installe, insidieuse, et avec elle, ses conséquences silencieuses. Saviez-vous qu'elle accroît de 30% le risque de maladie cardiovasculaire ? Qu'en France, seulement 5% des adultes ont une pratique sportive satisfaisante sur le plan santé ? Ce matin, on va se demander comment redonner une place au sport dans nos vies, mais surtout comment retrouver le plaisir simple de bouger, transformer l'effort en élan et en mouvement de joie. Si vous qui nous écoutez souhaitez nous faire part de votre témoignage, le standard est ouvert au 01 45 24 7000 ou par message sur l'appli Radio France. Nous sommes le mercredi 20 août. Grand bien vous fasse, en direct tout l'été pour vous accompagner.
France Inter. Grand bien vous fasse. Yasmine Ouglis.
Tu pas l'archétype du mec hyper musclé, tu sais, hyper baraqué, qui en est fier, qui va faire des photos de ses abdos pour les mettre sur Instagram avec le hashtag no pain, no gain. Ah, il m'énerve cela. Non, j'ai pas d'abdos, mais je m'en fous, je suis pas jaloux. C'est quoi les abdos? C'est quoi? C'est juste des bosses un peu dures sur ton ventre, hein. Moi j'ai un kyste mollet. C'est pareil, c'est juste qu'il est mal placé, c'est tout. Merde, voilà. Bah... Non, pire que ceux qui font des photos de leurs abdos, ceux qui se les touchent comme ça, dans la rue. Tu sais, ils se caressent comme ça. Devant toi. Moi, je pense qu'il les compte, hein. Bah, c'est pour ça qu'ils mettent autant de temps. Faut aller jusqu'à 6, quand même.
L'humoriste Alex Ramirez se moque des sportifs, mais lui aussi fait partie, j'ai bien l'impression, de ceux qui n'ont pas sauté le pas. Apparemment, j'espère qu'il nous écoute. En tout cas, ce matin, il est question de se poser les bonnes questions pour mettre à mal les idées reçues qui nous empêchent de nous lancer. Nous allons également pouvoir compter sur les conseils des experts présents sur ce plateau ce matin. Bonjour, Farman Bati.
Bonjour,
Yasmine. Vous êtes kinésithérapeute et vous venez à la rescousse de grands sportifs lorsqu'ils ont besoin de récupérer. Vous allez donc pouvoir nous conseiller sur la bonne pratique du sport pour les débutants et nous transmettre votre enthousiasme quand il s'agit de parler de sport. Bonjour Lucille Woodward.
Bonjour.
Cet enthousiasme, vous le partagez, vous êtes coach sportif depuis 20 ans, vous accompagnez des sportifs débutants et aguerris avec une seule envie, leur apprendre à aimer bouger. On est très impatients de recevoir vos conseils. On sera aussi en ligne ce matin avec Paul Klotz, expert associé à la Fondation Jean Jaurès, auteur d'une enquête sur les ravages de la condition sédentaire. J'ai donné quelques chiffres tout à l'heure, vous avez compris que c'est de bonnes raisons pour s'y mettre. On sera également en ligne avec Alison Cavaillé, entrepreneuse et créatrice de contenu, qui nous racontera son déclic sportif et la reconnexion avec un corps qu'elle avait négligé.
En ce moment, le fitness.
Les pompes, la traction un peu.
Je cours de temps en temps, je fais du roller, je nage, je fais de l'escalade.
Alors la marche, le vélo, la piscine.
La randonnée.
C'est dur, hein, des fois, de se motiver, mais quand on a fini, qu'est-ce qu'on est content ?
C'est la détente, le fait qu'on se vide la tête, on pense à rien.
Je pense plus à mes problèmes encore.
Le fait de faire du sport, je pense que ça doit libérer des endorphines déjà pour commencer. Et puis même le contact avec la nature, c'est indispensable à mon bien-être mental, sincèrement.
Oh, depuis tout le temps, ça fait 50 ans que je fais du sport. J'ai été champion olympique. Le coach sportif, en fait, c'est beaucoup de choses. En fait, c'est comme le pilote avec son copilote qui a vraiment une relation de confiance.
Actuellement, il y a tellement de possibilités. On n'est pas obligé d'aller en salle, de transpirer, on n'est pas obligé.
Je dirais de ne pas abandonner au premier sport testé, que si ça ne convient pas, il vaut mieux essayer de tester autre chose et de persévérer. Mais il faut y aller petit à petit, il faut pas se mettre des objectifs trop hauts, trop vite.
Il faut avoir une heure devant soi, quoi.
Le conseil que j'ai à donner surtout, c'est de trouver la salle de sport le plus proche. Le sport, comme ils disent, le sport c'est la santé.
Un micro-trottoir réalisé pour Grand Bien Vous Fasse à Paris par Eléa Corr, Elina Garcia et Noëlla Filliol. Vous l'avez entendu, le sport, l'essayer, c'est l'adopter. En tout cas, c'est ce qui se dit. Pour ça, il faut déjà commencer par s'y mettre. Farman Bati, d'un point de vue anatomique, sommes-nous tous capables de pratiquer une activité sportive ?
Bien évidemment, oui. Et le plus important, c'est d'essayer de trouver celle qui nous correspond. On ne va pas pratiquer le sport de la même façon quand on a 10 ans, quand on a 20 ans, quand on a 40 ans, quand on a 80 ans.
Ou 100 ans, comme Julia Hawkins, dont je parlais tout à l'heure.
Et donc c'est vrai que, évidemment, l'activité physique, le sport, est à l'accès de tout le monde. Mm-hmm. Mais il faut l'adapter à ses besoins, à ce qu'on est et ce qu'on recherche.
La kinésithérapie, c'est une thérapie par le mouvement. En quoi le mouvement est-il important pour notre corps ?
En fait, le mouvement est primordial. C'est-à-dire que même quand vous dormez, vous respirez, donc vous bougez. On bouge tout le temps. Donc c'est-à-dire qu'en fait, arrêter de bouger, c'est la mort du corps.
Ah ben ça, alors là, Lucille Woodward, je vois que à côté, vous opinez, vous êtes alors, d'accord.
Oui, tout à fait. C'est une façon de dire assez abrupte, mais je suis tout à fait d'accord. Et nous, dans notre phrasé de coach sportif, on dit généralement, quand tu ne l'utilises pas, tu le perds, voilà. En anglais, what you don't use, you lose.
Et ça sonne toujours mieux en anglais, c'est pénible.
Oui, mais en fait, c'est vrai que si vous ne travaillez pas, par exemple, votre appareil locomoteur, donc vos jambes, mollets, cuisses, fessiers, abdos, bah, au fur et à mesure, vous allez les perdre. Et plus vous vieillissez, plus vous perdez en masse musculaire. Ça, de toute façon, c'est physiologique.
Alors ça,
donc,
j'ai appris
si on ne l'entretient
ça
pas,
à partir de 30 ans, je crois, non ?
C'est ça, à partir de 35 ans. Au début, c'est assez lent, cette perte musculaire. Et puis, plus on vieillit et plus on perd rapidement en masse musculaire, à partir de 50 ans, c'est moins 10% toutes les décennies. Donc, c'est énorme, en fait. Et c'est pour ça qu'on se retrouve parfois en face de personnes qui ont, par exemple, 70 ans, qui ont l'air mince, mais en réalité, vraiment assez frêles, avec des muscles très, très faibles. Et donc, c'est là qu'il y a des risques de chute, par exemple, parce qu'il y a moins de muscles pour se rattraper.
C'est donc essentiel pour notre corps, voilà, le mouvement. Lucille, quand on entend le mot sport, on entend souvent le mot performance. Est-ce que vous pouvez nous rappeler ce que c'est que le sport ?
Oui, c'est vrai qu'en entendant sport, on parle beaucoup de chrono, de performance, d'être meilleur que les autres, de compétition.
Ouais.
En réalité, le sport, c'est juste bouger avec un rythme un petit peu plus actif, en fait, que juste marcher. C'est-à-dire transpirer un peu, avoir une sensation d'effort, mais pas forcément au-delà de nos capacités et toujours dans la compétition, que ce soit avec les autres ou avec nous-mêmes.
Alors, on peut faire la distinction entre le sport et l'activité physique ?
Moi, je pense que c'est bien de faire cette distinction, parce que je pense, notamment quand on va entendre votre expert de la sédentarité, ça sera intéressant quand même d'en parler. Il y a cette notion d'activité, de bouger, donc ça veut dire par exemple marcher, prendre les escaliers, faire son jardin, faire la cuisine et du coup être debout. Ce genre de choses, c'est un peu l'activité physique, voilà, quotidienne. Et puis il y a le sport, c'est autre chose, c'est quelque chose d'autre, c'est monter un peu dans les tours de cœur, donc c'est-à-dire que le cœur qui bat un peu plus vite,
c'est
un
plus
petit
intense.
Peu transpiré, un peu plus intense, et c'est une autre chose, et les deux sont très importants en fait, et l'activité physique quotidienne et le sport. Les deux sont deux éléments importants et sont deux facteurs de risque cardiovasculaire ou maladie chronique qui sont un peu indépendants, c'est-à-dire qu'on peut être sportif et sédentaire, et on peut être non sédentaire, non sportif.
On peut être sportif, enfin tout dépend de la dose en fait. C'est ce que vous voulez dire ?
Non, en fait, c'était pas dire que, par exemple, on peut courir 40 minutes tous les jours,
oui,
et être sédentaire, c'est-à-dire rester assis plus de 5 heures à son bureau. Ça, c'est deux facteurs complètement différents. Le sport est très bien, donc courir 45 minutes, par exemple, c'est très bien, mais rester assis 5 heures à son bureau sans bouger, ça, c'est un facteur de sédentarité qui est néfaste. Donc, c'est deux choses différentes.
Il faut se mettre en mouvement régulièrement dans la journée, on y reviendra tout à l'heure. Pour ceux qui n'en pratiquent pas, derrière le sport ou l'activité physique se cache souvent la peur d'un effort important. Farman Bati, vous qui êtes spécialiste de notre anatomie, de nos muscles, on peut aussi avoir peur de la douleur, donc. Est-ce que c'est inhérent à la pratique sportive, la douleur ?
Alors, je vais faire aussi un anglicisme comme l'a fait Lucille tout à l'heure. On parle souvent de no pain, no gain pour le sport. Mmh. Alors, la douleur, il faut savoir que non, elle n'est pas obligatoire dans le sport. En revanche, on peut avoir des sensations qui vont nous donner une sens de fatigue, c'est-à-dire une bonne fatigue. On va avoir des sensations, on va avoir l'impression de s'être dépassé. Et c'est là que je vais rentrer et que je vais ajouter un élément par rapport à la définition du sport et l'activité physique. Le sport, on va essayer de se dépasser un petit peu par rapport à ses habitudes. L'activité physique, c'est pour maintenir un état général convenable pour pouvoir faire les mouvements de la vie de tous les jours. Et donc, dans le cas du sport, oui, effectivement, on va se dépasser un petit peu. En revanche, la douleur, dès qu'elle est vive, elle indique quelque chose qui ne va pas. C'est un signal, c'est pas un ennemi, c'est pas quelque chose qu'on doit absolument combattre, c'est pas quelque chose qu'on doit absolument adopter, c'est quelque chose qu'on doit essayer d'écouter et de comprendre.
Si on y va progressivement, on n'est pas censé avoir mal ?
On va sentir des choses, mais on va pas avoir de douleur vive. C'est encore une fois, on fait bien la distinction entre la douleur vive et la sensation en fait, que son corps peut nous envoyer. Parfois, quand on reprend une activité, là, par exemple, ça va être la période de la rentrée, on va prendre les transports en commun, on va monter deux escaliers, on va monter deux étages, on va commencer à sentir que son corps nous envoie un signal. C'est pas une douleur, c'est quelque chose de bien. Ça là veut dire que peut-être qu'on a un peu trop galéré à la plage cet été. Mais, mais en revanche, dès qu'on a une douleur vive qui est presque handicapante, celle-ci, elle indique autre chose.
D'accord, on a fait peut-être trop d'efforts. Alors, le thème de notre émission ce matin, c'est comment apprendre à aimer le sport. Lucille Woodward, quel rôle joue le plaisir dans la pratique sportive ?
Il est essentiel, absolument, et dès l'enfance. Donc, pour que des enfants aiment le sport, il faut qu'ils jouent, qu'ils s'amusent, que ce soit une activité qui leur plaît. Donc, à la récréation, assez vite, vous allez aller voir des enfants qui jouent à chat, qui montent, qui descendent le toboggan. Tout de suite, il y a cette notion de plaisir et il faut que ça continue quand on est pré-ado, ado, adulte, plus âgé. Vraiment, le meilleur sport, il n'y a pas de meilleur sport en fait. Le meilleur sport, c'est celui que vous aimez. Et parce que vous l'aimez, vous allez avoir envie d'y retourner demain, dans 3 jours, la semaine prochaine. Et c'est ça le meilleur sport. Donc la notion de plaisir, elle est plus qu'essentielle, elle est fondamentale.
Oui, et on ne voit pas votre visage, pour nos auditeurs, ils ne voient pas votre visage, mais quand vous parlez du sport, votre visage s'illumine. Donc on sent bien que pour vous, c'est une histoire de plaisir avant tout. Et vous parliez des enfants. Pourquoi, d'après vous, on peut perdre ce plaisir en prenant de l'âge ?
Ça pourrait être une émission à part entière, je pense, le sport des enfants. Alors moi, par exemple, mes enfants ont 11 et 15 ans, donc je suis assez confrontée finalement à cette grosse période d'arrêt du sport, en fait, à ces âges-là. Parce que très souvent, les enfants perdent le plaisir dans leur pratique, parce qu'il y a beaucoup de compétitions, parfois imposées. Certains enfants n'aiment pas la compétition ou n'ont pas forcément envie. C'est trop de stress, il y a déjà du stress à l'école et n'ont pas envie de remettre encore de la performance dans le sport. Donc parfois, c'est des arrêts. Parfois, le plaisir se perd parce que d'un seul coup, on devient un peu quelqu'un d'autre. Donc on a besoin de faire une autre activité, mais elle n'est pas proche de la maison, c'est compliqué de changer. Donc, on arrête et puis on ne retrouve rien derrière. Il y a aussi la concurrence avec les réseaux sociaux, les téléphones, les jeux vidéo.
Delphine ! Je te présente Bertrand, c'est celui qui a répondu à l'annonce !
Tu sais ce qu'on fait ici, au moins ?
Oui, la natation synchronisée, masculine.
Bon, tu sais nager, au moins ?
Ouais.
Grand bien vous fasse.
Bon, c'est bon, t'es dans l'équipe. Bon, on se magne, on va au vestiaire et on prend le maillot, bonnet, pince-nez, lunettes. Et on se retrouve dans 5 minutes dans le bassin, ok ?
Sur France Inter.
Allez, allez, on y va là, on s'y met bien évidemment. On parle toujours de sport, ça fait beaucoup réagir hein, ce thème d'émission. Je vais vous lire le message d'Eric, je suis obligée. Il dit « Le sport me déprime totalement, je tombe dans un ennui profond quand je le pratique, même en écoutant de la musique, podcast ou autre. Notre objectif ce matin, c'est de convaincre Eric. » Parce que oui, Eric, on a tous été un peu comme vous, mais on espère que ça va changer. Et on espère aussi vous donner des arguments très concrets sur le papier. On le sait, tout ce que pratique une activité sportive est bon pour la santé. Écoutez donc ce témoignage.
Le sport, c'est mon équilibre. Donc, il faut que je fasse du sport. De toute façon, mon corps me le demande. Quand je fais moins de sport, je sens que j'ai des douleurs physiques qui apparaissent. Je suis moins bien mentalement. Je réfléchis moins bien. C'est parfois un ensemble qu'on comprend pas trop quand on fait pas de sport, mais je m'entraîne beaucoup, mais il faut voir que quand je m'entraîne 3 à 5 heures, ou même parfois 10 heures pour une longue distance, pendant les 10 heures, j'ai le temps de réfléchir. Le sport m'a donné beaucoup, parce que ça apprend à travailler en équipe, ça apprend à prendre soin des autres, ça apprend qu'il y a des moments difficiles, il y a des grands moments de bonheur, il y a des moments plus durs.
Laurent Herth, triathlète amateur, interviewé par France Bleu en mars 2024. Pour lui, vous l'avez entendu, le sport est devenu indispensable à son équilibre. Nous ne sommes pas suffisamment nombreux à l'intégrer à notre hygiène de vie. C'est le moment de se pencher sur des chiffres qui vont peut-être nous faire passer à l'action. Bonjour Paul Klotz.
Bonjour et merci pour votre invitation.
Vous êtes expert associé à la Fondation Jean Jaurès, auteur d'une enquête sur les ravages de la condition sédentaire. Et ce matin, vous nous rapportez des chiffres chocs. Le premier, un adulte français passe en moyenne 7h24 en position assise par jour.
Effectivement, 7h24 par jour en position assise, et ce chiffre augmente à 12 heures par jour pour les personnes qui travaillent derrière un bureau, soit un tiers de la population. Donc c'est véritablement un renversement anthropologique, cette sédentarité, dans le sens où nous y sommes exposés comme nous n'y avons jamais été exposés auparavant. Et elle est d'autant plus frappante, si je puis dire, qu'elle frappe d'abord les personnes les plus précaires, les personnes qui ont le moins de revenus, le moins de diplômes, et donc elle est aussi un marqueur d'inégalité très fort. Peut-être pour aussi mesurer l'ampleur de ce phénomène, qui est donc distinct selon les niveaux de population, au total, ce sont 95% des gens qui sont exposés à un risque sanitaire élevé en raison de leur inactivité.
Ce chiffre est énorme. Les chiffres que vous énoncez ce matin sont chocs, je le disais. On va essayer de remettre aussi ces chiffres en perspective. Est-ce que c'est beaucoup plus que pour les générations précédentes ?
Alors, on a des difficultés à avoir, des chiffres sur le très long terme. Mais ce qu'on remarque, en revanche, notamment avec les enquêtes emploi du temps de l'INSEE, qui consiste à demander aux gens comment est-ce qu'ils occupent leur journée ou leur semaine et qui sont réalisées tous les 10 ans, on se rend compte que les activités physiques dont parlaient Farman et Lucille, donc distinctes de l'activité sportive pure, telles que jardiner, bricoler, même cuisiner ou prendre soin de soi, ont toutes soit stagné, soit diminué, alors même que nous disposions de beaucoup plus de temps libre du fait de l'automatisation des tâches domestiques, du fait de la réduction du temps de travail. Et donc cette libération du temps, elle n'est pas associée du tout à une hausse de l'activité physique, c'est au fond l'écran et les réseaux sociaux qui ont pris quasiment l'intégralité de ce temps libéré.
En préparant cette émission, vous nous avez dit que 5% des adultes ont une activité physique satisfaisante, permettant une protection effective de leur santé, et que ce manque d'activité toucherait davantage les femmes.
Oui, on a ce chiffre qui est étonnant, c'est que donc les 95% ou les 5%, ce sont les chiffres de l'ANSES. C'est les chiffres à partir duquel vous encourez un risque pour votre santé, sans forcément que ce risque soit effectif. Et puis sur la question de savoir véritablement si vous êtes en danger ou non, 70% des femmes ne pratiquent pas assez d'activités sportives contre 30% des hommes. Et donc il y a cette inégalité des genres qui est assez difficile à expliquer. Mais on peut dresser différentes hypothèses. On parlait tout à l'heure de l'image très performative ou performante du sport, qui est aussi associée à des valeurs de compétition, d'injonction, propres, je dirais, au néolibéralisme. En tout cas, c'est l'idée que je développe dans ma note, et qui crée des différences de représentation selon les genres.
Je pense
que des différences de pratique.
Il y a aussi la charge mentale qui repose majoritairement, la charge mentale de la famille, qui repose encore trop souvent majoritairement sur les femmes. On en parlera tout à l'heure d'ailleurs avec Alison Cavaillé. Alors, quels effets concrets la sédentarité a-t-elle sur la santé, notamment cardiovasculaire ?
Eh bien, la sédentarité, vous l'avez dit, elle augmente substantiellement le risque de maladies, de pathologies cardiovasculaires, mais aussi de maladies chroniques, l'obésité, le surpoids, le diabète, et puis les troubles de santé mentale qui sont extrêmement importants, dont on sait qu'ils explosent avec une épidémie de solitude qui frappe la population et particulièrement la jeunesse, et qui est aggravée au fond par la sédentarité, puisque être sédentaire, c'est moins sortir dehors, moins voir de gens. On a aujourd'hui 12% de la population qui est dans une situation d'isolement total. C'est énorme. On n'a jamais eu un chiffre aussi élevé depuis qu'on fait des mesures. Alors même qu'on sait que l'activité sportive, par exemple, elle est associée à une hausse de la sociabilité, de la convivialité. Il y a 60% des gens qui pratiquent des activités dans un club qui disent s'en réjouir parce que ça leur permet de rencontrer des nouvelles personnes. Donc voilà, des pathologies cardiovasculaires, obésité, diabète, mais aussi troubles de santé mentale.
C'est la santé au sens large qui est impactée. La santé mentale, vous l'avez dit, en revanche, dans le sens positif quand on pratique le sport. Farman Bati, les conséquences de la sédentarité sont-elles perceptibles au niveau musculaire ?
En fait, c'est assez simple. Je rebondis sur ce que dit Paul. Il y a un chiffre, ou en tout cas, il y a un vécu que j'ai au cabinet tous les jours. C'est que depuis cette période de sédentarité, là, ça va faire à peu près 25 ans que je vois des patients, on a de plus en plus des douleurs plus cervicales et des épaules que des douleurs de dos. C'est-à-dire qu'en fait, on a vraiment un glissement par rapport à ça. Ça ne veut pas dire que la douleur de dos a disparu, mais on a même inventé un mot au travail pour ça. Ça s'appelle les TMS, les troubles musculo-squelettiques. Ce sont des douleurs qui apparaissent liées à la sédentarité, liées au fait de rester au même endroit. Et en fait, souvent, la réponse qu'on essaye d'avoir, c'est de se dire quelle est la bonne posture. Mais en fait, le problème n'est pas lié qu'à la posture, c'est lié au manque de contre-posture, c'est lié au manque de mouvement. C'est-à-dire qu'en fait, l'être humain n'est pas fait pour rester plus de 2 heures dans la même position. Je dirais même 1h30, mais je l'ai dit hors taxe. Donc en fait, grosso modo, 2 heures maximum dans la même position, il faut absolument bouger.
Oui, donc quand on parlait tout à l'heure de la différence entre sport et activité physique, l'idée c'est de se mettre en mouvement régulièrement dans la journée. Donc vous, vous conseillez de le faire tous les 2 heures. Ça passerait par quoi ?
En fait, tout simplement, de se lever de son bureau. Mmh. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui vont s'asseoir, et en plus, depuis la période de la Covid, du télétravail, il y a des gens qui commencent à travailler à 8 heures, alors qu'avant, ils quittaient le domicile à 8 heures pour aller marcher, prendre les transports pour arriver à 9 heures au bureau. Ils bougeaient, et puis après, ils allaient déjeuner avec leurs collègues, et puis après, ils prenaient un café, ils bougeaient, en tout cas, même dans leur entreprise. Là, maintenant, les gens commencent à 8 heures, et parfois ne bougent pas de leur bureau pendant toute la journée.
Alors là, il est 10h30. Si vous êtes au travail et que vous nous écoutez, bon, on ne le dira pas à votre patron. En revanche, on vous conseille donc de vous lever, d'aller faire quelques pas et de mettre votre corps en mouvement. On parlait des femmes tout à l'heure. Lucille Woodward, quelles sont les raisons évoquées par les femmes que vous accompagnez pour justifier un manque d'activité sportive ?
Alors, il y en a énormément, mais le premier frein, c'est le temps. Pour les femmes, mais je pense aussi pour les hommes. Ce manque de temps, toujours à courir avec le travail, les transports, les enfants, plein de choses à faire. Et c'est vrai que c'est difficile parce qu'on n'a jamais eu autant de temps libre. Réellement, en fait, avec la quantité de travail imposée légalement. Donc, c'est difficile, en fait, de dire non, mais on a le temps pour ce qu'on veut. Oui, mais j'ai pas le temps. Enfin, le temps, c'est assez complexe, mais c'est quand même le premier frein. Et ensuite, il y a beaucoup de peur. La peur de mal faire, la peur de se blesser, la peur d'être trop vieille, la peur de se faire mal au dos, de se faire mal aux abdos, de se faire mal au périnée, par exemple. Enfin, il y a énormément de peur. Donc, il y a beaucoup de messages qui ont été véhiculés aussi dans les années peut-être 2000 sur les abdos, le dos, faites pas ci, faites pas ça, vous allez vous faire mal. En réalité, bon, enfin, c'est pas vraiment le sport qui fait mal. Le sport qui fait mal, c'est seulement quand il est fait trop fort, trop vite, trop d'un coup, trop... Voilà. Mais sinon, quand le sport il est fait avec plaisir et régularité, sans notion vraiment de tout de suite aller à fond... Il blesse pas vraiment, en fait. Donc,
faudrait peut-être
On a peut-être trop parlé des blessures.
Oui, trop parler des blessures, de la performance et mettre derrière, associer au mot sport le plaisir et la douceur, ce qu'on fait assez rarement puisqu'on associe la performance et la compétition. Paul Klotz, si le manque d'activité des Français a des conséquences directes sur leur santé, on l'a dit, il en a une sur notre économie également.
Oui, complètement. La sédentarité, en réalité, c'est 140 milliards d'euros de coûts supportés par la collectivité, des coûts directs et indirects, hein, donc qui ne sont pas des coûts nécessairement financés par l'État, mais de perte de productivité. C'est 38 000 décès chaque année, et puis 62 000 pathologies qui peuvent être évitées si on adopte un mode de vie plus actif. Et donc, aujourd'hui, on est dans une situation dans laquelle l'État, par la dépense sociale, supporte une grande partie de ces 140 milliards d'euros. Et à l'inverse, il y a tout un système économique, et je trouve que là, il y a un motif d'indignation légitime et de colère qui doit apparaître, il y a tout un système économique autour du capitalisme numérique, dont la sédentarité est le fonds de commerce. C'est le cas des plateformes de streaming, c'est le cas des réseaux sociaux, c'est aussi le cas pour partie de l'industrie pharmaceutique, et donc on a des profits privées liées à la sédentarité qui sont supportées par des pertes publiques. Et c'est aussi pour ça que c'est un sujet éminemment politique dont il faut prendre conscience.
C'est une explication auquel on pense pas forcément, à laquelle on ne pense pas forcément. Donc merci de nous informer. On peut donc se dire que si on ne le fait pas pour nous, on peut le faire pour la France. Hein. C'est une raison supplémentaire, en tout cas de multiples raisons, de se mettre au sport. On écoute tous les bénéfices de l'activité physique résumés par le médecin le plus célèbre de France, au micro de Louise Aubry pour son podcast Adolescence pour France Inter. On écoute Jimmy Mohamed.
De la musculation, au niveau de vos muscles, vous allez produire des petites molécules qu'on appelle des myokines. Ces myokines, elles ont un pouvoir extraordinaire. Elles diminuent le risque de dépression, elles diminuent le risque de maladies cardiovasculaires, de diabète, de maladies d'Alzheimer, de maladies de Parkinson. Elles diminuent les récidives en cas de cancer du sein et de cancer du côlon. La musculation diminue le risque de récidive de cancer. C'est surréaliste. Et cette activité physique, c'est un médicament. On a besoin de muscles pour être en bonne santé. On a besoin de bouger. Donc trouvez toutes les occasions que vous avez en journée pour bouger. Pas forcément d'aller à la salle de sport, mais l'activité physique, c'est une variable qui est non négociable.
On va terminer sur ces mots. Hein. Jimmy Mohamed au micro de Louise Aubéry. L'activité physique, c'est une variable non négociable. Paul Klotz, pour clôturer cet échange avec vous, que faudrait-il changer au niveau individuel ou collectif pour inciter les Français à bouger au quotidien? Vous avez une idée?
Oui, une idée qui n'a pas encore été débattue dans le débat public, mais qui me paraît pouvoir être très intéressante, c'est rembourser le sport sur ordonnance. Je m'explique. Aujourd'hui, un médecin peut, dans une logique préventive envers quelqu'un qui a une pathologie chronique ou une affection longue durée, lui prescrire une activité physique adaptée. Le remboursement par la Sécurité sociale est pris en charge seulement pour cette activité physique adaptée. Mon idée, c'est que demain, dans une consultation de routine, si vous voulez, lorsque vous allez voir votre médecin généraliste, il décide, un peu comme le dit Jimmy Mohamed, vous prescrire une activité sportive, pas forcément parce que vous avez une difficulté, mais simplement dans une logique préventive pour vous permettre d'éviter des maladies ou de vous sentir bien. Et les frais d'adhésion des clubs sportifs ou des associations seraient pris en charge par la Sécurité sociale. Alors on pourrait dire que dans une période où on cherche des économies budgétaires, ça va nous coûter très cher. Mais en réalité, je crois que les gains de long terme seront bien supérieurs aux coûts du court terme liés au remboursement d'une activité sportive.
Vas-y !
Yasmine nous glisse.
Allez ! J'en peux plus !
Vas-y, mets-toi de pied !
Mais je peux pas !
Tu l'as déjà fait, oh !
J'y vais, mais j'ai peur !
Grand bien vous fasse.
Si, je fais !
Ça va vite ! Ça va trop vite ! Ça va trop vite !
Sur France Inter.
On l'a compris, grâce à nos invités, pratiquer une ou plusieurs activités sportives est bon pour notre santé, pour notre morale, mais encore faut-il avoir le déclic pour passer à l'action. On a reçu plein de messages, je vais vous lire celui de David. Il dit « J'ai découvert Lucille Woodward, notre invitée donc ce matin, sur les réseaux et grâce à elle, je me suis remis au sport. Je fais de la muscu, je cours, je marche. Cela a un impact sur tous les pans de ma vie, travail, vie de famille, alimentation, humeur. » En France, on n'a pas du tout la culture du sport et c'est un immense problème. Il faut que je vous dise que pendant les musiques, on discute sur ce plateau et que Farmaine Batty et Lucille Woodward sont tombés d'accord là-dessus. Pour eux, la France n'est pas un pays de sport. Ça ferait l'objet d'une autre émission. En tout cas, là, on est en ligne avec Alison Cavallé qui est aux Philippines, en vacances, mais qui a voulu prendre le temps d'un échange ce matin parce que le sport a tout simplement transformé sa vie. Alison Cavallé, vous êtes avec nous?
Bonjour à tous.
Bonjour. Je le disais, vous avez eu un déclic sportif. Il est arrivé pour vous il y a maintenant 2 ans. Est-ce que vous pouvez nous raconter?
Oui, effectivement, j'ai eu ce qu'on appelle le déclic sportif à 35 ans. Après avoir passé, ben, je peux le dire, toute une vie sans activité physique. J'ai jamais fait de sport, je pensais être quelqu'un pas capable, quelqu'un qui n'aimait pas ça.
On le dit, vous pensiez que vous n'étiez pas capable et que vous n'aimiez pas ça. Vous considérez que vous vous êtes laissé aller pendant plusieurs années. Je crois que vous considériez aussi qu'il était trop tard et que donc le sport, c'était pour les autres.
Exactement. J'ai vraiment vécu la différence entre métier non sédentaire, parce que j'étais aide-soignante pendant de nombreuses années. Et puis après, la vie fait que j'ai changé totalement de métier, je suis devenue entrepreneuse, et donc beaucoup plus de temps derrière mon bureau. Et on va dire que ce mouvement quotidien qu'on peut avoir quand on travaille dans les hôpitaux me permettait de ressentir un certain...
Une connexion.
Un certain maintien de mon corps. Et puis la sédentarité est arrivée. Et puis les premiers mots, je ne parle même pas des kilos en trop parce que ça a été mon cas pour moi, mais des mots, quoi. Mal au cervical, mal un petit peu partout, des névralgies, des petites choses qui te tombent dessus. Et c'est vrai que tu vas voir un kiné, un deuxième, un médecin, et puis on te demande est-ce que vous pratiquez du sport, est-ce que vous faites du sport ? Non, pas du tout. Ben, peut-être qu'il faut essayer de commencer par là. Et ça, ça a été les premiers signaux qui m'ont mis sur le chemin du sport.
Après, vous avez eu un déclic. C'est une vidéo que vous avez eue de vous-même qui vous a vraiment donné l'envie d'agir.
Effectivement, oui. C'est vrai qu'à 35 ans, 3 enfants, une boîte, il y a pas mal de choses. Lucie en parlait très bien tout à l'heure. Il y a pas mal de choses qui font que tu te regardes plus vraiment en face. Et j'ai un métier d'image. Et donc, je me suis retrouvée sur une vidéo, une interview filmée de moi. Et je me suis absolument pas reconnue quand je me suis vue. Et j'ai demandé, je m'en rappelle à mon mari, « Attends, tu trouves pas que ça me grossit un peu ? Dis donc, c'est vrai ce qu'on dit sur la télé ?» Et puis il m'a regardé, il m'a dit, « Bah non, t'es comme ça. » Et donc là, j'ai re-regardé.
Et lui, vous trouvez très belle comme ça, bien sûr.
Bah oui, j'étais qui j'étais pour lui. Mais après, je dois avouer que d'un point de vue, humain, je commençais à dépérir de l'intérieur. Il y avait quand même quelque chose qui faisait que j'étais de plus en plus mal et que donc je ne ressemblais déjà pas physiquement à la personne dont il avait l'habitude, dont il me connaissait. Mais c'est surtout, je commençais à être trop stressée. On parlait de dépression. Enfin, je commençais vraiment à me sentir dépérir, c'est le mot. Enfin, j'ai pas trouvé même de
oui, assez fort, mais c'est le cas. Je pense que ça décrit très bien. On comprend très bien en fait dans quel état vous étiez. Donc, vous êtes mise en route. Vous avez testé différentes activités pour trouver celle qui vous convenait, et vous avez rapidement senti des effets de cette mise en mouvement. Est-ce que vous pouvez nous en parler?
Oui, bien sûr. Je me suis mise en mouvement. Parce qu'on parle toujours du déclic, on a toujours besoin d'avoir un petit truc en trop qui fait qu'à un moment donné on y va. Et je me permets de le dire ça parce que vous parliez de la France et de savoir si c'était un pays sportif ou pas. Je crois qu'il y a, il y a quelque chose d'assez sociétal où quand on n'est pas issu aussi d'une famille qui fait du sport ou moi le sport c'était une autre catégorie de personnes, mais c'était pas moi, c'était pas nous, c'était pas mes proches. Et donc quand il faut s'y mettre, j'ai l'impression que, pour moi je disais je vais faire du sport, c'était une obligation, je me force à y aller. Et c'est rapidement, peut-être pas hyper rapidement par rapport à ce que je ressentais à ce moment-là, mais on va dire au bout d'un mois, un mois et demi.
De quelle pratique? Au bout d'un mois, de quelle pratique?
J'avais pris un coach sportif qui venait chez moi une heure par semaine. Et je vous jure que quand le mec m'a envoyé un message, Alison, tu m'as pas donné tes dispos de la semaine. Je faisais exprès de pas lui répondre. Je lui dis non, mais t'inquiète, j'ai un train demain à 8h, ça, c'est pas possible. Ben ok, je viens à 6h. Non. Et en fait, cette approche, c'est comme ça que ça a fonctionné pour moi. Ça m'a mis le pied à l'étrier. Et au bout de 3 semaines, 4 semaines, on parle d'habitude. Mon corps reconnaissait aussi l'effort. L'effort ne devenait pas que douleur, parce qu'on parlait de douleur aussi. Il y a quand même quelque chose quand on est débutant. On ne parle pas de douleurs vives, encore une fois de plus, je rejoins vraiment les propos qui ont déjà été dits, mais il y a quand même des inconforts, il y a des courbatures, il y a des chevilles qui font mal, il y a dans mon cas quelques kilos un petit peu en trop qui sont difficiles à porter, et puis aussi c'est très difficile de se mouvoir quand on n'a pas eu l'habitude et quand on ne sait pas bouger, quand on ne sait pas se positionner. C'est pour ça que j'ai vraiment envie, si jamais quelqu'un m'entend dans son poste, que vous sachiez, que c'est pas vrai quand on dit à quelqu'un qui ne bouge pas, met des baskets et va courir. C'est pas si facile que ça. Et arriver à bouger, arriver à comprendre son corps, arriver à ressentir des choses qui sont pas très agréables et passer ses caps, ça nécessite beaucoup de courage, ça nécessite aussi un accompagnement. Ça peut être un coach, ça peut être un proche, ça peut être une copine, ça peut être parfois les réseaux sociaux, je sais pas, n'importe. Mais et la motivation toute seule, moi personnellement, j'y crois pas. Et voilà, c'est
un ensemble de choses qui, exactement, en tout cas, vous ont permis de vous mettre en mouvement. On a parlé des effets bénéfiques. Lucille Woodward, ces effets bénéfiques, on les ressent tous si rapidement?
Très rapidement, surtout l'effet mental. Je veux dire, par exemple, l'aspect santé mentale du sport, il est très rapide, vraiment dans les 10 premières minutes en fait. C'est-à-dire que on se sent pas super bien. On peut tous faire le test. Hein. Parfois, on n'a pas envie de bouger. On se sent un peu mal. On se sent un peu, un peu gueule de bois ou quoi. Et on bouge, mais ça peut être juste aller marcher en forêt, promener son chien à bonne allure, jouer au tennis avec ses enfants, faire un petit tour de vélo. Et dans les 10 minutes, on se sent beaucoup mieux. Par exemple, si on note de 1 à 10 son état d'humeur, avant d'avoir bougé, on était peut-être à 2 sur 10. Et juste après ces 10 minutes, on est peut-être à 6 sur 10. Bah, il n'y a aucun médicament qui existe et qui est capable de ça, en plus sans effet secondaire. Donc, en réalité, oui.
Pourquoi s'en priver ?
Exactement. Mmh. Mais en fait, je reviens sur cette très belle notion de courage que nous a dit votre...
Alison,
voilà, interlocutrice. Malheureusement, en fait, c'est sociétal que, justement, le fait de faire du sport soit à ce niveau de courage. Parce qu'en réalité, c'est possible de juste rendre le sport totalement normal dans la vie de tous les jours et dire « Ah bah, tu fais ton sport, c'est normal. » Aujourd'hui, tu dis « Ah, je vais courir une demi-heure », tout le monde se dit « Oh là là, c'est incroyable, comment tu fais ?» Non, en fait, et c'est pour ça, en fait, que ça devient du courage. Alors qu'en réalité, c'est « Je vais courir 30 minutes. Ah ok, trop cool, bah, génial. » Et en fait, là, ça, c'est plus du courage. Et maintenant, faire du sport, c'est tellement être différent de tout le monde que ça en devient de la bravoure.
Non, on l'a bien dit, on va réintroduire la notion de plaisir, se refaire confiance si on l'a déjà fait auparavant, y aller progressivement. Alison Cavaillé, aujourd'hui, le sport fait partie intégrante de votre vie. En préparant cette émission, vous m'avez même dit, autant que dormir et manger, on peut donc parler d'une nouvelle vie.
Ouais, c'est ça. Bah, le sport fait partie de mon hygiène de vie.
C'est
totalement
ça. Alors, est-ce que si vous deviez passer un message à nos auditeurs ce matin, lequel serait-il ? D'oser peut-être.
D'oser et de faire confiance à, comment dire, à tout un univers dont vous entendez juste parler, que vous n'avez pas encore touché du doigt, et de passer cette barrière un petit peu de peur, de blocage. D'aller, ça encore un peu plus, je paraphrase, mais je suis tellement alignée avec tout ce qui a été dit, d'aller chercher le sport plaisir, pas celui qui fait mal, pas celui qui nous saoule. C'est ok de pas aimer une salle de sport. J'entends souvent, ah ben je me suis inscrite à une salle de sport. Mais qu'est-ce qu'on y fait dans une salle de sport? Vous pouvez pas débarquer, regarder des bouts de métal et vous dire, ah ben je vais m'asseoir là et faire quelque chose. C'est pas inné. Donc je crois qu'il y a vraiment quelque chose de c'est ok si vous n'aimez pas courir, si vous n'aimez pas ci, si vous n'aimez pas ça. Peut-être que ça sera le paddle, peut-être que ça sera la rando, peut-être que ça sera la course. Et en fait, on a une chance inouïe d'avoir 150 000 sports différents tout autour de nous. Il faut aller les chercher et parfois on peut se questionner en se disant mais en fait depuis que je suis tout petit, je sais pas moi, je rêve de faire de la bachata, ben pourquoi pas. Et aller prendre.
Il faut oser, voilà. Il faut oser et puis il faut.
Comme le font nos enfants. Nos enfants osent,
on y revient.
Osent tester des sports et nous, on n'ose pas.
Ils ont peut-être moins peur que nous aussi. Alors vous, vous avez donc imaginé, suite à ce déclic, des séjours que vous proposez à ceux qui le souhaitent pour avoir eux aussi leur déclic et partager ensemble. Merci beaucoup, Alison Cavaillé, d'avoir pris le temps pendant vos vacances aux Philippines, où on peut voir d'ailleurs sur les réseaux sociaux que vous faites du sport, même avec des noix de coco maintenant, parce que vous en avez besoin. On peut vous retrouver donc sur les réseaux sociaux pour prolonger cet échange et on vous laisse profiter de vos vacances en famille. Merci beaucoup.
Merci à tous et puis bon courage et osez.
Ouais, voilà, ça c'est le maître mot, oser. Farman Bati, après avoir entendu le message d'Alison Cavaillé, nombreux sont ceux qui vont vouloir passer à l'action. J'espère qu'Éric nous écoute toujours et que ça va lui donner envie. Quels sont les premiers réflexes à avoir avant de se lancer? Est-ce que, par exemple, il faut consulter un médecin?
Ben, en fait, je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit Alison. C'est assez difficile de s'y mettre tout seul et l'une des meilleures personnes qui peut vous accompagner, c'est le professionnel de santé. C'est-à-dire qu'avant de reprendre le sport, en plus la majorité des clubs de sport, la majorité des salles vous demandent en général un papier médical qui vous permet de reprendre le sport, eh bien n'hésitez pas à aller voir un professionnel de santé qui va pouvoir évaluer votre état de santé et surtout en fait, dans la notion de sport, si on cherche une performance, c'est la performance de se sentir bien. Ça veut dire quoi ?
Avant tout.
Avant tout. Et ça commence par des choses très très simples. Il y a certaines personnes, par exemple, qui ont un manque d'équilibre. Ils disent, moi, je me sens pas bien. Dès que je cours, je tombe. Et je suis donc moi, la course, c'est pas fait pour moi. Et ben, analyser en fait ces dimensions-là, c'est le travail du professionnel de santé, c'est le travail du kinésithérapeute, c'est le travail du médecin, le médecin du sport, qui vont permettre de évaluer quels sont les déficits que la personne peut avoir. Parce que avant de vouloir performer, il faut peut-être définir quels sont les déficits que cette personne peut avoir.
Bien sûr. Donc, se faire accompagner, c'est aussi peut-être passer par un coach, comme l'a fait Alison, comme vous le faites, vous, Lucille, puisque c'est votre métier. Comment vous accompagnez ceux qui veulent démarrer ? Par quelle activité on peut démarrer ?
N'importe quelle activité. Après, c'est vrai que les coachs sportifs, bon, nous, on aime bien muscler nos adhérents ou nos membres, parce qu'en fait, ça soutient n'importe quelle activité physique. C'est-à-dire que si vous aimez la danse, le karaté...
Le kiné qui vous regarde approuve, bien évidemment.
Bien sûr. Alors, les kinés vont plutôt réparer, remettre en route en fait un corps qui est un petit peu en déficience. Nous, on accompagne finalement les progrès. Donc, généralement, on propose finalement à nos membres de faire n'importe quel sport qu'ils aiment. Donc, ça peut être du tennis, du badminton, de la marche, de la rando, peu importe, de la course à pied. Et nous, derrière, on va les aider à se muscler correctement en fonction du sport qu'ils font, à aimer se muscler. Parce qu'en fait, finalement, plus au début, on apprend... C'est vrai que tous ces mouvements de squat, de fente, de pompe, au début, en effet, ils peuvent faire peur, ils peuvent occasionner un peu des douleurs ou en effet de l'ennui. Mmh. Mais nous, on leur apprend à aimer ça, en se plaçant bien, en sentant son corps bien placé, en sentant les muscles, les progrès. Et ensuite, on les accompagne à être de plus en plus à l'aise dans leurs activités physiques choisies.
Voilà, il faut être accompagné, aussi peut-être se fixer des objectifs qui soient tenables. Il faut être gentil avec soi-même, hein, on le dit tous les jours, je crois, dans cette émission.
Après, moi, j'aime bien aussi un tout petit défi qui fait peur, un tout, tout petit défi, parce que c'est vrai que parfois, ça motive encore plus de se dire, tiens, je vais faire un 5 km ou je vais faire un petit tournoi de tennis. On se sent encore plus fort mentalement.
France Inter, grand bien vous fasse, Yasmine Ouglis.
Intégrer une ou plusieurs activités sportives permet de se reconnecter avec son corps. Mais lorsqu'elle est pratiquée en famille, là aussi, on se connecte, mais aux autres. Une petite idée pour terminer peut-être vos vacances et faire du sport en famille, la course d'orientation.
J'aime bien courir, donc, et comme j'aime bien réfléchir aussi, donc comme c'est deux choses qui s'assemblent, j'aime bien.
On peut découvrir des paysages totalement différents de ce qu'on peut voir d'habitude et qu'on est plus en contact avec la nature que les autres sports.
C'est un sport qu'on a découvert grâce à notre grand garçon et c'est vraiment de pouvoir faire ça en famille. Il y a des parcours pour les tout petits, pour les 5-6 ans, comme pour les très expérimentés, comme pour les plus vieux et plus âgés, on va dire. Et du coup, on passe des week-ends tous ensemble, il y a une super ambiance. Et en même temps, on se dépense, on est dans la nature. Et comme dirait mon grand, on réfléchit en même temps. Donc c'est vraiment super chouette.
La course d'orientation est un sport, je ne le savais pas, et dépend de la Fédération française de course d'orientation. Je trouve que c'est une très bonne idée à faire en famille, quelle que soit la météo. Farmad Bati, quel conseil donner aux familles qui manquent de temps ou de budget pour pratiquer un sport ensemble ?
Eh bien, déjà, le fait de le faire ensemble, ça va leur permettre de gagner du temps un maximum et faire des choses qui vont être rapides, ludiques et qui vont leur permettre de se motiver les uns les autres. Par exemple, le stretching, ça fait partie des choses qui permettent de gagner très rapidement en mobilité, de se sentir bien. Et des étirements qui vont permettre, par exemple, aux enfants de découvrir leur corps, parce que beaucoup d'enfants, malheureusement, ne connaissent pas bien leur corps. On avait dit, le sport, en fait, c'est comme une langue. Plus on la commence tôt, et plus on la développe rapidement. Et les enfants, je pense que c'est le genre de choses qu'on peut faire. Moi, par exemple, avec mes enfants, j'ai fait du vélo. Avec mes enfants, je vais marcher et on a la chance, c'est qu'on a un plateau, donc ça monte, ça descend. Donc on fait des séances très courtes, on court, on descend, on court, on descend. Et en 10 minutes, ils sont morts. Ça leur permet de bien dormir. Et moi, ça me permet aussi d'avoir fait mon sport.
Et puis en plus, vous partagez. Donc
dans la nature et on prend vraiment un moment, c'est l'occasion de découvrir plein de choses ensemble.
Rapidement, Lucille Woodward, je crois que vous avez une autre idée qui est de saison aussi.
Oui, mais c'est vrai que par exemple, pour tous les gens qui sont encore à la plage, vous pouvez louer un pédalo cet après-midi. Les parents vont pédaler et se donner à fond. Les enfants, ils vont monter, descendre dans le toboggan et nager un petit peu autour du pédalo et ça va être une super activité physique. Vous pouvez aussi jouer au volleyball sur la plage avec l'eau à peu près niveau de la taille. Vous pouvez courir après les vagues, vous pouvez faire n'importe quoi, vous pouvez mettre la musique à fond et danser avec vos enfants dans le salon.
Ah oui !
Ça met le monde en mouvement, ça met la bonne humeur et tout le monde a bougé, sauté et ça fait hyper du bien pour tout le monde.
De toute façon, quand on vous écoute, Lucille Woodward, toutes les occasions sont bonnes pour se mettre en mouvement, pour faire du sport. Un grand merci à vous quatre d'avoir partagé avec nous vos conseils, mais surtout votre relation au sport. On l'a compris, l'essayer, c'est l'adopter. On remet le plaisir au centre. Un grand merci aux équipes qui, comme chaque matin, étaient à mes côtés pour concevoir cette émission avec passion. C'est important de le souligner. Maria Pascal à la réalisation, Rémi Sistiaga et Achille Aquenin à la technique, Thierry Dupin à la programmation musicale, sans oublier celle au pluriel qui œuvre dans l'ombre à la préparation des émissions. Jessica Bagic, Lucie Grandet-Lavigne, Noélia Filiol, Elina Garcia et Eléa Cor.
Grand bien vous fasse, un podcast France Inter.